creusé un trou dans le jardin. Un grand trou dans lequel on pourrait enterrer un corps. C'est peut-être sa tombe ou alors la mienne. J'ai enregistré ça environ 2 heures après avoir découvert le trou dans le jardin. Je me demandais si elle comptait me tuer et me jeter dans ce trou. Sinon, pourquoi elle aurait creusé un trou aussi gros? C'est une photo de Delilah et moi. Elle date de l'année dernière. À cet instant, on avait presque oublié le meurtre. On a vécu le même traumatisme. Je ne sais pas si on peut guérir de ça. Ma sœur et moi serons toujours prisonnières de Karina. Le mal qu'elle nous a fait, la maltraitance mentale et émotionnelle, ça ne s'efface pas. Sur cette photo, il y a ma mère, Karina, et le bébé, c'est moi. Parfois, je l'appelle Karina, et parfois, je l'appelle maman, parce que j'ai des sentiments ambivalents envers elle. Pour moi, c'est Karina, parce qu'elle a fait du mal à quelqu'un, alors qu'elle n'aurait pas dû. Personne n'est parfait, bien sûr, mais elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Je suis l'aînée. Après moi, il y avait 4 garçons et Delilah. Ma mère avait 16 ans lorsqu'elle m'a eue et qu'elle a épousé mon père biologique. Elle m'a souvent dit que si elle ne m'avait pas eue aussi jeune, si elle n'était pas tombée enceinte, sa vie aurait été différente. En tant qu'enfant, quand on entend ça, on se dit que c'est de sa faute. Mais entre Delilah et moi, je pense que c'est elle qui a le plus souffert.
Espèce de taré, pour qui tu te prends? Madame, je sais tout.
J'aurais dû tout enregistrer. J'aurais vraiment dû le faire. C'est pas juste. J'ai peur de ma mère. Elle me fait tellement peur. C'est difficile pour moi d'en parler. Je fais comme si ça n'avait pas existé. Ça me semble irréel, comme si j'avais rêvé. Je pense que ma mère est quelqu'un de mauvais et qu'elle avait des démons en elle. Elle s'est longtemps battue contre quelque chose qui la rongeait. J'ai refoulé tellement de choses que parfois j'oublie ce qu'elle m'a fait. J'ai décidé de raconter ce que ma mère a fait parce que ça a eu de lourdes conséquences sur notre famille. Et je voulais également apporter un éclairage sur les violences domestiques qui tournent mal. Je notais ce que je ressentais dans mon journal Parce que si je le disais à voix haute, Karina s'en prenait à moi verbalement. Toutes ces insultes, tous ces ordres, elle ne me mérite pas. Même si elle a eu une vie difficile, elle ne mérite pas de m'avoir. Elle n'aurait jamais dû m'avoir, elle aurait mieux fait d'avorter. On dirait que c'est écrit par trois personnes différentes. J'étais tellement perturbée et perdue. Je ne savais pas qui j'étais. J'ai vécu toute ma vie avec ces mots en tête. Forcément, ça marque. La première violence physique que j'ai subie, c'est quand elle m'a brûlée avec une cuillère. Je suis entrée dans la cuisine, ma mère était en train de préparer à manger. Je suis montée sur un tabouret et j'essayais de voir ce qu'elle faisait, par curiosité. Et là, elle m'a hurlé dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»«
Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher de la gazinière. »
Et là, je revois cette cuillère chaude s'abattre sur mon bras. Mon bras gauche. On ne voit presque plus rien. C'était sur le bras gauche. Juste là. Je sais que c'était là parce que pendant longtemps, ça va sembler bizarre, mais j'étais fière de cette cicatrice parce que c'était la preuve qu'elle m'avait fait du mal et que c'était vraiment arrivé. Lorsque mon père est rentré du travail, et qu'il m'a vu pleurer, il a regardé mon bras et il m'a demandé ce qui s'était passé.
Qu'est-ce qui s'est passé, chérie ?
Il a trouvé sa louche. Peu de temps après, il l'a dénoncé à la police. Mais elle n'a jamais été poursuivie. Parce qu'il n'avait pas porté plainte. Ça se passait souvent comme ça. Mon père ne voulait pas faire de vagues. Il ne voulait pas lancer de procédures judiciaires et dépenser de l'argent en frais d'avocat. Un soir, en rentrant du travail, mon père a remarqué une odeur bizarre dans la maison. Il lui a demandé ce qu'elle avait dans la main. Elle était en train de verser de l'essence un peu partout. Elle disait qu'elle voulait brûler la maison.
Chérie ?
Il lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais ? Les enfants sont à la maison. » Mais elle ne lui a pas répondu. Il avait peur de ne pas réussir à la maîtriser. Alors il a appelé un proche. La personne est venue et ils ont réussi à la calmer. Elle se calmait plus rapidement quand quelqu'un d'extérieur à la famille intervenait. Il était absolument terrifié par certaines des choses qu'elle faisait. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire ça ce soir-là. Même mon père a dit qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Je sais qu'ils avaient des problèmes de couple. Elle aurait pu partir, mais son premier réflexe a été de vouloir brûler la maison. Depuis ce jour-là, il craignait pour sa vie. Il ne comprenait pas comment elle avait pu faire ça. Avec le recul, je pense qu'elle aurait été capable de mettre le feu à la maison. Mes parents ont fini par décider de mettre un terme à leur mariage. Ils ont divorcé. Des années plus tard, mon père m'a confié qu'il pensait qu'il serait mort s'il était resté avec elle et qu'il était content d'être parti à temps. C'est une photo de Ku et Karina. Ma mère nous a fait déménager à Milwaukee. Et elle a fait plusieurs rencontres avant de tomber sur Ku, qui est ensuite devenu notre beau-père. Ensemble, ils ont eu deux autres enfants. J'ai eu un petit frère et une petite sœur en plus. Cette photo date d'une période dorée de leur relation, quand tout allait bien. Karina n'appréciait pas que Ku s'occupe de Delilah.
Ku me traitait comme sa fille. J'ai grandi en pensant que c'était mon père biologique et je le traitais comme mon père biologique. Mon père était en train de réparer une voiture. Karina est sortie furieuse. Elle avait ramassé une brique dans le jardin. Et elle a lancé la brique à travers la vitre de la voiture. Mon père lui a crié d'arrêter. Je crois qu'elle a fait ça pour attirer son attention et pour le punir. Il savait que ma mère était folle, mais il l'aimait. Et il ne voulait pas priver ses enfants de leur mère. J'avais peur qu'elle s'en prenne à lui, ou qu'elle lui fasse du mal, et que je ne puisse rien faire. Ma mère a installé des caméras devant la maison et dans le jardin. Et pour une raison que je ne m'explique pas, elle en a aussi mis une dans la cuisine et une autre dans le salon. J'ai compris plus tard que ces caméras étaient là pour espionner mon père. Après l'école, on était dans sa voiture et elle a ouvert une application qui montrait ce que les caméras filmaient. Elle le surveillait en permanence pour voir ce qu'il faisait. Ce n'était pas pour les cambriolages, c'était pour espionner mon père. Un jour, je lui ai parlé. Je lui ai demandé pourquoi elle était aussi obsédée par lui. Elle m'a répondu, « On ne sait pas ce qu'il peut faire. Peut-être qu'il me trompe. »
Oui, elle l'espionnait. Un jour, elle nous a dit, « Il faut y aller. Je veux savoir où il est. Il devrait déjà être rentré. » Alors, on a pris la voiture. On est passé devant des maisons et des appartements. Et elle disait, « Il est où? Il doit être par là. » Elle essayait de l'appeler, mais il ne répondait pas. Je me demandais ce qui allait se passer. Elle s'est arrêtée devant une maison pour voir s'il y était. Mais il n'y était pas. Elle était obnubilée par l'idée qu'il puisse la tromper. On a fini par rentrer parce qu'elle ne le trouvait pas. Et une grosse dispute a éclaté quand il est rentré.
Tu me prends pour une idiote? Je sais que tu n'étais pas seule.
Je n'ai jamais compris pourquoi il restait avec elle. Et pourquoi il était si serviable. Il continuait d'être gentil avec elle. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je crois que je ne comprendrai jamais.
Arrête de me mentir!
Il l'aimait. Voilà tout. Il avait des sentiments pour elle. C'est pour ça qu'il restait. Même si elle était horrible avec lui. Ça me faisait de la peine. Parce qu'il ne méritait pas tout ça. Il aurait dû la quitter.
Un jour, j'étais assise à la table de la cuisine, en train de manger. Ma mère avait acheté de la mort au rat. Elle m'a dit qu'elle allait empoisonner mon père avec.
J'avais l'habitude de ces menaces. À l'époque, je ne la pensais pas capable de passer à l'acte.
Elle lui disait souvent qu'elle avait empoisonné sa nourriture ou qu'elle avait remplacé ses cachets par autre chose. Ça lui faisait peur. Elle avait fait des études d'infirmière. Elle mettait ça en avant pour lui dire qu'elle savait comment le tuer. Je n'aimais pas l'entendre dire ce genre de choses.
Le dîner est bientôt prêt. C'est pour Ku.
Ku avait peur. Il avait peur de vivre avec elle. Elle était obsédée par lui. Comment faire pour vivre avec quelqu'un qui est obnubilé par le moindre aspect de votre vie? C'est impossible, il ne pouvait pas respirer. Il me disait de faire attention à ce qu'elle faisait. Il m'a dit plusieurs fois, « S'il m'arrive quelque chose, ça viendra de ta mère. » Un jour, il m'a dit qu'il attendait qu'elle s'endorme avant de s'endormir. C'était très concret et très effrayant. En avril 2011, Ku est venu dans ma chambre en pleine nuit en me disant que ma mère essayait de mettre le feu à la maison. J'étais paniquée. Alors je me suis levée en vitesse pour aller vérifier ce qu'elle faisait. La gazinière était allumée et elle était en train de déchirer des journaux et de jeter les morceaux sur le feu. Je lui ai dit d'arrêter. Maman, s'il te plaît. Alors elle a pris un couteau qui était sur le plan de travail et elle l'a agité devant moi en me disant de retourner me coucher et de me mêler de mes affaires. Ku m'a dit, ça va aller, on va retourner dans ta chambre et on va appeler la police. On a commencé à marcher dans le couloir. Et là, Ku a grimacé de douleur. Quand je me suis retournée, j'ai vu qu'elle lui avait lancé un petit couteau dans l'épaule. Je lui ai dit, tu as un couteau dans le dos. J'ai appelé la police. Ils ont arrêté Karina et l'ont mise en cellule pour la nuit. Ce soir-là, j'ai eu peur pour ma vie. Et après ça, pendant longtemps, j'ai eu peur des couteaux. Ku a retiré sa plainte et nous a dit qu'il retournait vivre avec elle. J'ai trouvé ça complètement fou. Ku m'a dit, appelle ton père et demande-lui de venir vous chercher. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il arrivait. J'étais contente d'aller vivre avec lui, mais j'étais inquiète pour Ku. Elle était capable de tout. Le comportement de Karina était de plus en plus inquiétant. Elle était imprévisible. J'avais peur que Ku soit en danger en restant avec elle.
Tu ne mérites pas d'avoir une mère. Tu ne devrais même pas en avoir une. Oh, tu es triste? Et maintenant tu pleures? Tu te fous de moi? Alors, j'en ai rien à foutre. Ça suffit.
Elle m'insultait pratiquement tous les jours. J'avais l'habitude. Ça me rend triste d'entendre ça. Ça me rappelle à quel point j'étais triste et déprimée à l'époque. Ce n'est pas comme ça que je veux me souvenir de ma mère. Mais les violences verbales et émotionnelles laissent des cicatrices à vie.
«
Une ordonnance de protection a été établie pour nous. Mon père a obtenu notre garde à tous pendant un an. Le jour où l'ordonnance a expiré, Karina est d'abord venue chercher Delilah et mon frère. Ensuite, elle est venue chercher mon autre frère. Personne ne pouvait rien y faire.
Allez !
Mon père était totalement impuissant. Elle avait le droit de les récupérer. Mais on était sidérés que ce soit le cas. On était effondrés. Je l'ai détestée d'avoir fait ça. Elle a séparé la famille en deux. Les trois aînés, on est restés avec mon père. Et les trois plus jeunes sont allés avec elle. J'avais peur pour ceux qui vivaient chez elle. Je culpabilisais de savoir que Delilah était son souffre-douleur. Elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça.
Je me disais qu'il fallait que je protège mes frères, mes sœurs. Je me sentais responsable d'eux. Parce que je ne savais pas ce dont elle était capable. Karina était de plus en plus psychotique et agressive envers Ku.
Pourquoi tu fais ça ?
Parce que tu n'écoutes rien.
J'étais très déprimée, mais je ne savais pas comment gérer leurs problèmes et mes émotions, tout en protégeant mes frères et sœurs. Je me sentais très seule. J'étais la plus âgée de la maison, et je voyais tout ce qui se passait. Il n'y avait personne pour me protéger.
Vas-y, t'as qu'à essayer.
Tu es complètement folle.
Ma mère me disait toujours de ne pas rester en contact avec ma sœur. Ku est venu dans ma chambre un jour et il m'a dit qu'il en avait assez de se faire maltraiter par ma mère. Leur relation se dégradait. Je passais toujours un moment avec mes amis après l'école. Un jour, ma mère m'a appelée pour me demander de rester dormir chez mon amie. Je n'ai pas de vêtements de rechange. D'habitude, elle ne me laissait jamais passer la nuit ailleurs. Le lendemain, elle m'a de nouveau demandé de ne pas rentrer. Je ne comprenais pas. J'avais déjà passé une nuit chez mon amie. Pourquoi voulait-elle que je reste une nuit de plus ? Mais elle ne m'a pas répondu. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle ne me disait jamais de choses gentilles. Ça ne lui arrivait que trois fois de me dire « je t'aime ». Alors, j'ai trouvé ça bizarre. Après avoir passé deux nuits chez mon amie, je suis rentrée à la maison. J'ai demandé à mes frères et sœurs où était papa. Maman leur avait dit qu'ils s'étaient installés chez quelqu'un de la famille. Je leur ai proposé d'aller jouer dans le jardin parce que ça faisait plusieurs jours que je ne les avais pas vus et je voulais passer du temps avec eux. En sortant, j'ai vu ma mère. Elle avait l'air préoccupée et perturbée. C'est là que j'ai vu un énorme trou dans le jardin. Il était recouvert d'une sorte de bâche. Je n'y ai pas fait très attention, mais pour plaisanter, j'ai dit qu'il y avait peut-être un corps à l'intérieur. Mes frères et sœurs ont rigolé. Ma mère, qui était à côté, a dit « Je construis un abri ». Elle avait souvent des projets dans le jardin. Pourquoi faire ? Elle a dit qu'elle voulait construire un abri pour donner plus de valeur à la maison avant de la vendre. Elle a commencé à construire cet abri quelques jours plus tard. Au bout de quelques jours, Kuh n'était toujours pas rentré. Au bout de 3 jours, il n'était toujours pas rentré. Alors je lui ai écrit et je lui ai demandé où il était. Je n'ai pas reçu de réponse alors que mon message avait bien été distribué. Il ne serait pas parti. Ça ne lui ressemblait pas. Il n'aurait pas abandonné ses enfants. Lorsque j'ai demandé à ma mère où il était, elle est devenue folle. Elle s'est mise à crier, à pleurer et à faire n'importe quoi. J'ai commencé à l'enregistrer parce que je sentais que quelque chose n'allait pas.
Il peut bien revenir, je m'en fiche. Et s'il me dit qu'il m'aime, eh ben, tant pis, c'est fini. Arrête de me parler du passé, de me dire qu'il m'aime et que c'est quand même papa. Je m'en fous.
Je n'ai jamais dit ça.
Je m'en fous, c'est terminé. Ne me parle plus jamais de lui.
Je demandais juste parce que...
J'en ai rien à faire.
J'ai demandé où était mon père. Et c'est ce qu'elle m'a répondu. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose, vu la façon dont elle a réagi. Elle a creusé un trou dans le jardin. Un grand trou dans lequel on pourrait enterrer un corps. C'est peut-être sa tombe, ou alors la mienne. J'ai envoyé un message à Maylene pour lui raconter ce qui se passait à la maison. J'ai commencé à me dire qu'il s'était passé quelque chose. Ça faisait 2 semaines que Kuh avait disparu. Ma mère avait commencé à faire du tri dans la maison. Elle en faisait surtout dans leur chambre. Elle a dit à mes frères et sœurs et à moi de ne pas entrer dans la chambre. Un jour, une amie est venue chez moi et je lui ai expliqué la situation. On a attendu que ma mère s'en aille. Et on est allé voir dans la chambre. On a regardé dans l'armoire, rien. Il n'y avait aucun vêtement à l'intérieur. Aucune trace de mon père. Et il y avait un tissu sur le matelas. La pièce était étonnamment vide. C'était bizarre. On a retiré le tissu sur le lit et on a vu qu'il y avait un trou dans le matelas. C'était étrange. Pourquoi faire un trou dans un matelas? Le trou était du côté où mon père dormait. Quand on a entendu ma mère rentrer, on a remis le tissu sur le matelas et on est sorti de la chambre. Après ça, j'ai écrit à Maylene.
C'était très étrange que le matelas ait été découpé de cette façon. Personne ne fait ça. Pourquoi est-ce qu'elle garde ce lit? Il y avait de quoi s'inquiéter. Tout portait à croire que Karina avait fait quelque chose. Delilah m'a écrit, et si maman avait tué Kuh? Si c'était le cas, elle est complètement tarée. Vu la situation, ça ne faisait aucun doute. Elle l'avait tué et elle essayait de le cacher.
Ma petite sœur m'a envoyé un message pour me dire que maman était bizarre. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a expliqué que maman devait l'emmener faire des courses, mais qu'à la place, elles avaient fait 1 heure de route pour aller dans un parc. En arrivant, Ma mère avait pris un sac poubelle qu'elle avait jeté quelque part dans le parc avant de repartir. J'ai demandé à ma sœur ce qu'il y avait dans le sac poubelle, mais elle ne s'en souvenait pas. Pourquoi faire une heure de route pour aller dans un parc, un grand parc, et se débarrasser d'un sac poubelle?
C'est un peu étrange de jeter un sac poubelle comme ça. Elle a peut-être voulu se débarrasser de l'arme du crime. C'était peut-être ça.
Tous les matins, je me réveillais avec la peur au ventre. Qu'est-ce qui allait encore se passer? Je ne savais pas si je devais prévenir la police, parce que je n'étais pas complètement sûre que ma mère soit capable de faire ça. Mais j'ai fini par les appeler. J'ai expliqué à l'agent de police tout ce que j'avais découvert et tout ce que ma mère avait dit. Je crois qu'elle a fait quelque chose de mal. Le trou dans le jardin, l'abri qu'elle avait construit par-dessus, mon père et ses affaires qui avaient disparu, et lui qui ne répondait pas à mes messages, et le trou dans le matelas. Je suis restée au téléphone pendant 2 heures. L'agent de police ne m'a pas dit s'il me croyait ou non. J'ai pris un énorme risque en prévenant la police. J'ai enregistré le contact des policiers dans mon téléphone sous de faux noms pour ne pas qu'elles sachent qui c'était.
C'est qui?
Une copine.
Quand Delilah m'a dit qu'elle avait prévenu la police, j'ai eu peur qu'il lui arrive quelque chose. J'avais peur de ce qui pouvait se passer si Karina découvrait qu'elle était en contact avec les autorités.
On va être en retard.
Alors j'ai dit à Delilah d'être très prudente.
On nettoyait la maison pour qu'elle puisse la mettre en vente. On était au sous-sol. Quand deux hommes sont venus frapper et sonner à la porte, j'ai immédiatement compris que c'était des policiers.
Il y a quelqu'un?
Ma mère les a vus grâce aux caméras et elle a compris. Elle nous a dit de ne pas faire de bruit et elle a éteint toutes les lumières.
Eh oh, il y a quelqu'un?
Pendant qu'on était en train de se cacher au sous-sol, j'ai envoyé un message au policier pour lui dire qu'elle était là, mais qu'elle ne voulait pas leur ouvrir. Ils sont partis, mais ils sont revenus le lendemain, et ma mère a réagi de la même manière. J'étais déçue qu'ils s'en aillent. Je ne savais pas s'ils allaient continuer d'insister. On avait rassemblé nos affaires. On allait partir. J'ai écrit au sergent pour lui dire qu'on partait. En sortant de la maison, un policier est apparu. Il l'a menotté et il lui a lu ses droits. Quand ils lui ont passé les menottes et qu'ils l'ont emmené, ma mère avait l'air furieuse. Elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit de ne pas parler aux policiers. J'ai immédiatement prévenu ma sœur Maylene.
Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a soulagée. Delilah ne risquait plus rien. Mais j'étais quand même un peu inquiète que Karina découvre que c'était Delilah qui avait tout organisé. Il y avait quand même des chances qu'elle s'en sorte. Elle avait déjà été arrêtée puis relâchée par le passé. Est-ce que Karina parviendrait à s'en sortir, comme à chaque fois?
Je continuais de me demander où était Ku. Et j'espérais qu'il allait réapparaître. Le sergent m'a dit qu'il avait obtenu un mandat de perquisition pour la maison. Ils ont démonté l'abri de jardin. Ensuite, ils ont creusé. Et ils ont trouvé le corps. J'espérais de toutes mes forces que ce ne serait pas mon père. J'espérais que ce serait quelqu'un d'autre. C'est horrible de dire ça, mais je ne voulais pas que ce soit mon père. Les policiers ont appelé Maylin. J'étais avec elle. Ils ont confirmé que c'était bien le corps de mon père. J'ai fondu en larmes. Je m'en voulais de ne pas avoir compris plus tôt. Et ça m'a répugné de me dire que j'avais vécu dans la maison alors qu'il était enterré là.
Le sergent m'a expliqué que quand ils ont dit à Karina qu'ils avaient trouvé le corps enterré dans le jardin, elle avait avoué le meurtre. J'étais catastrophée. Mes frères et sœurs étaient là. Et j'étais horrifiée pour eux. Parce que c'était leur père. Quand je les ai entendus pleurer pour la première fois depuis longtemps, ça m'a brisé le cœur. C'est la photo de Karina qui a été prise après son arrestation pour le meurtre de Ku. C'est l'aspect de sa personnalité que j'ai toujours soupçonné et dont j'avais peur. Je suis toujours partagée quand je la vois en photo. Parce que ma mère me manque. Mais d'un autre côté, je la hais pour tout ce qu'elle m'a fait subir. Excusez-moi. Pour moi, c'était prémédité, même si elle soutient que non. Elle dit qu'il l'a violée et qu'elle a attendu qu'il s'endorme pour aller chercher une arme et le tuer de 2 balles dans la tête pendant son sommeil. Elle avait forcément tout prévu pour le tuer juste après un événement isolé. Il s'est passé trop de choses avant pour que je puisse la croire.
Une partie de moi refusait de croire que ma mère était coupable. Mais une autre partie de moi voulait rendre justice à mon père. J'ai appris que ma mère lui avait tiré 2 balles dans la tête pendant qu'il dormait. Ensuite, elle a traîné son corps de la chambre au jardin. Elle a creusé un trou et elle l'a jeté à l'intérieur. Puis elle a recouvert son corps avec une espèce de bâche. J'essaie de ne pas trop penser à l'avenir, parce qu'il reste encore longtemps avant qu'elle puisse sortir. Mais quand ça arrivera, je serai prête. Je vais m'assurer que mes frères et sœurs et moi soyons en sécurité. C'est ma déposition. Je l'ai écrite parce que je voulais qu'elle sache le mal qu'elle m'avait fait et toute la souffrance qu'elle m'avait infligée. Plusieurs semaines plus tard, elle pensait s'en être sortie impunément. Elle m'a souri, un sourire calme et effrayant. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai eu une sensation très désagréable. Je me trouvais face à une meurtrière qui avait les traits de ma mère. Elle nous a demandé, à ma sœur et moi, de couler le béton sur la dalle. C'est ignoble. Je me trouvais au-dessus de la tombe de mon père sans même le savoir. C'est une manipulatrice doublée d'un monstre. Et je suis triste pour elle aussi. J'ai beaucoup d'émotions contradictoires envers ma mère. Ça m'est égal qu'elle apprenne que j'ai aidé les policiers. Parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Et je suis fière de l'avoir fait. J'ai des sentiments partagés pour elle. Je la déteste. Je l'aime. Elle me manque. Et en même temps, je ne veux pas qu'elle m'approche. Et je n'ai pas l'intention de la contacter. Je ne veux pas la revoir. Chère Delilah, on est mercredi. Ton anniversaire approche. Joyeux anniversaire, ma Delilah chérie. Je pense à toi. Tu me manques beaucoup et je t'aime. Avec tout mon amour, ma tendresse et toutes mes excuses. L'avenir t'appartient. Bisous, maman. Elle ne comprend pas le mal qu'elle m'a fait et les traumatismes qu'elle a créés. J'ai choisi de ne pas lui répondre parce que j'estime qu'elle ne le mérite pas. Ces traumatismes vont me poursuivre encore longtemps.
Il m'arrive de penser au jour où elle va sortir. Je me demande si elle essaiera de contacter mes petits frères et sœurs, dont j'ai désormais la garde. Je ne veux pas la voir. C'est juste ma génitrice. Mais je n'ai rien à voir avec elle. Le mal en elle ne fait que grandir. Et à chaque fois qu'elle a failli se faire prendre, elle a fait pire après. Elle a perdu tout sens moral en chemin. À partir de là, plus rien ne pouvait l'arrêter.
Il y a, dans une petite ville que l'on traverse sans toujours la remarquer, un salon de coiffure dont la vitrine ressemble à toutes les autres. Une enseigne en lettres délavées, une vitre où l'on distingue à peine les reflets du soleil d'hiver, une chaise en cuir un peu craquelée près de l'entrée. Rien qui attirerait l'œil plus que quelques instants. Rien, sinon le parfum étrange d'accueil que l'on sent avant même d'avoir franchi la porte. Les passants pressés ne s'y attardent pas. Les habitués, eux, savent qu'ici, derrière les murs tapissés de miroirs, il y a quelque chose de plus que des coupes de cheveux ou des barbes taillées. Ici, on vient pour recommencer. Ici, chaque ciseau qui claque dans l'air est comme une petite déchirure dans le tissu du passé. Et chaque mèche tombée au sol devient la trace d'un fardeau qui s'en va. Le propriétaire s'appelle André. Les habitants le connaissent simplement comme le coiffeur. Pas parce qu'il serait le seul du quartier, mais parce qu'il est, d'une certaine manière, celui qui écoute mieux que tous les autres. André a 58 ans, un dos légèrement voûté par des années à rester debout, une barbe grisonnante qui donne à son sourire quelque chose de plus doux, presque paternel. Ses yeux, d'un brun clair, semble absorber la lumière et la rendre plus chaude. Chaque matin, André ouvre son salon avant même que la rue s'éveille. Il balaye les cheveux restés de la veille, fait chauffer la cafetière qui trône dans un coin, ajuste les ciseaux soigneusement rangés sur le comptoir. Puis il écrit, sur un petit tableau accroché à l'entrée, une phrase simple. « Aujourd'hui, les nouveaux départs sont gratuits. C'est sa règle, inventée il y a des années. Le lundi matin, toutes les personnes qui franchissent la porte et qui disent, en s'asseyant, qu'elles commencent quelque chose de neuf ne peinent pas leur coupe. C'est un geste discret, parfois même ignoré par ceux qui n'osent pas trop demander pourquoi, mais au fil du temps, cela est devenu une sorte de rituel secret que l'on se transmet dans le quartier. Si tu dois changer quelque chose dans ta vie, va voir André. C'est ainsi que, semaine après semaine, son salon est devenu un lieu où les histoires des essais de la ville se déposent comme les mèches coupées doucement, sans bruit. Ce lundi-là, il pleuvait. Une pluie fine, persistante, qui brouillait les vitres et faisait briller l'asphalte comme une scène de théâtre. André avait ouvert tôt, plus tôt encore que d'habitude, comme s'il pressentait que la journée serait différente. La première cliente est arrivée à 8h pile. Une jeune femme, la vingtaine à peine, les cheveux encore mouillés par la pluie, les mains tremblantes. Elle s'appelait Juliette. Son regard fuyait le miroir et sa voix, presque étouffée, a murmuré en s'asseyant. « Je commence quelque chose. » André n'a pas posé de questions. Il a simplement souri, posé la cape noire autour de ses épaules et a demandé « Alors, qu'est-ce qu'on change ?» Juliette a hésité, puis ses doigts se sont accrochés à ses longues mèches blondes, comme si elle se retenait à une corde invisible. « Tout a-t-elle dit. Coupez tout !» Le silence est tombé, un silence fragile, comme une respiration retenue. André a plongé son regard dans celui de Juliette. Il a reconnu dans ses yeux ce qu'il avait vu tant de fois. Cette lueur hésitante, ce mélange de peur et de détermination quand quelqu'un décide qu'il est temps de poser une pierre nouvelle dans sa vie. Alors il a commencé. Les ciseaux ont claqué, net, précis, et les mèches se sont mises à tomber comme des feuilles mortes. Juliette fermait les yeux à chaque coup de ciseaux, mais André voyait que ses épaules se relâchaient un peu plus à chaque fois. Quand il eut fini, il plaça un petit miroir dans ses mains. Elle s'est regardée longtemps, puis elle a souri. Pas un sourire large, ni bruyant. Un sourire discret, fragile, mais qui brillait d'une force nouvelle. « Merci », a-t-elle murmuré. Et elle est repartie, sans payer, laissant derrière elle une chaise encore chaude et un petit tas de cheveux blonds sur le carrelage. André a balayé doucement, comme on range une trace de vie. Il savait qu'il venait de voir quelqu'un renaître. Et il savait que ce n'était que le début de la journée. Un peu plus tard, le salon s'est rempli de l'odeur du café chaud. André a sorti deux tasses, car il aimait se dire que quelqu'un viendrait partager ce café avec lui, même s'il ne savait jamais qui. La porte s'est ouverte doucement, laissant entrer un homme d'une quarantaine d'années, ses épaules larges, semblait peser sous un poids invisible. « Bonjour », a dit l'homme. Sa voix était grave, mais son ton trahissait une hésitation. Il s'est assis, sans même attendre qu'on l'invite, et a lancé. « J'ai un entretien d'embauche cet après-midi. C'est ma première tentative depuis longtemps. Alors, je suppose que je commence quelque chose. » André a souri. Il a tendu une tasse de café que l'homme a acceptée avec un léger signe de tête. « Comment voulez-vous qu'on fasse ?» L'homme a hésité. Puis a dit « Sobre, simple, quelque chose qui dise « Je suis prêt ». André a hoché la tête. Les gestes sont redevenus mécaniques, peigne, ciseaux, souffle léger du sèche-cheveux. Mais derrière chaque mouvement, il y avait cette attention invisible. Cette façon de comprendre qu'une coupe de cheveux n'est jamais qu'une coupe de cheveux. C'est une manière de dire au monde « Regarde-moi autrement, car moi aussi je veux me voir autrement ». Quand ce fut terminé, l'homme s'est levé. Il s'est observé longuement dans le miroir comme s'il se découvrait sous une lumière nouvelle. Puis il a soufflé. « Merci. Peu importe ce qui se passe cet après-midi, je crois que j'avais besoin de ça. » Il est parti, et André a noté que son pas était plus ferme qu'à son arrivée. La journée s'est ainsi déroulée, avec ses passages, ses confidences, ses silences. Un étudiant venu avant un voyage à l'étranger. Une mère qui avait décidé de quitter la maison familiale pour recommencer ailleurs. Un vieil homme qui, après la mort de sa femme, n'était pas sorti depuis des semaines et voulait retrouver une tête présentable pour dire bonjour au monde. Chaque fois, André écoutait sans insister. Il savait que les mots sont comme les cheveux. Il ne faut pas les tirer de force. Il faut les laisser tomber d'eux-mêmes. La pluie s'était arrêtée, mais dans la rue luisante, les flaques reflétaient encore les façades. André, en essuyant ses mains sur un vieux linge, observait un instant par la vitre. Il aimait ses accalmies après les averses, quand tout semblait suspendu, comme si la ville elle-même avait retenu son souffle. Le silence était doux, mais il ne dura pas. La clochette de la porte tinta de nouveau, et une silhouette se dessina dans l'embrasure. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, un manteau sombre trop large pour elle, des gestes hésitants. Ses yeux cherchaient un endroit où se poser, mais ils revenaient toujours vers le sol, comme si lever la tête était trop lourd. Elle entra, serra contre elle un sac usé, et dit d'une voix presque effacée « Je crois que j'aimerais couper mes cheveux. » André lui sourit doucement et l'invita à s'asseoir. Il sentit tout de suite que cette femme portait un poids invisible et que ce poids se reflétait jusque dans la manière dont elle s'installait, comme si même le cuir de la chaise pouvait la repousser. « Vous commencez quelque chose ?» demanda-t-il, reprenant son rituel. Elle hocha la tête. Ses lèvres tremblaient un peu. « Oui, je quitte une maison où j'ai vécu trop longtemps. Aujourd'hui, je ferme la porte pour la dernière fois. Et je veux que quelque chose, au moins une chose, soit différent quand je franchirai la suivante. » André ne dit rien de plus. Il posa la cape autour de ses épaules, et dans ce simple geste, il mit toute la tendresse possible. Les ciseaux se mirent à chanter doucement, coupant les mèches brunes qui tombaient sur le tissu noir. Chaque chute semblait provoquer en elle un soupir discret, une expiration de chagrin. Peu à peu, ses traits se détendaient. Dans le miroir, André voyait apparaître une autre femme. Pas plus jeune, pas transformée, mais une femme qui acceptait enfin d'avoir le droit d'être regardée autrement. Quand il eut fini, il posa les ciseaux et laissa le silence s'installer encore un instant. La femme leva les yeux vers son reflet. Ses pupilles s'embuaient, mais cette fois, elle ne les détourna pas. Elle se contempla comme on se redécouvre après une longue absence. « Merci, » dit-elle enfin. Et sa voix était plus ferme. « J'ai l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. » Elle se leva, serra son sac contre elle et sortit. André resta un moment à regarder la porte se refermer, pensant à toutes ces vies qui venaient ici se déposer comme on dépose un manteau trop lourd. L'après-midi avançait. La lumière entrait en biais par la vitre, dorée, lente. André se servit une tasse de café et s'assit un instant près de la fenêtre. Il pensait à toutes ces histoires qu'il recueillait sans les chercher. Parfois, il se demandait s'il était coiffeur ou simplement gardien de fragments de vie. Chaque lundi, son salon devenait une mosaïque fragile de recommencement. Mais il n'eut pas le temps de s'égarer trop longtemps dans ses pensées. La porte s'ouvrit encore, et cette fois, ce fut un adolescent qui entra. 15 ou 16 ans à peine. Un visage marqué par l'acné, des mains nerveuses qui jouaient avec les manches de son sweat. Il s'assit en silence, puis souffla presque en défi. « Je veux raser tout ça !» Il désigna sa tignasse sombre et indisciplinée. André l'observa un moment. L'attitude bravache cachait mal une peur plus grande. Alors, comme toujours, il posa sa question. « Tu commences quelque chose ?» L'adolescente hésita, puis baissa les yeux. « Je commence. Moi. Je veux que les autres arrêtent de me voir comme le petit frère ou le gamin qui ne parle jamais. Je veux être. Juste moi. » André sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Combien de fois avait-il vu des jeunes venir ici chercher une armure ou une identité ? Il hocha la tête, posa calmement ses mains sur les épaules du garçon et dit « D'accord, on va faire en sorte que quand tu te regarderas, tu verras enfin celui que tu veux montrer. » Les cheveux tombèrent en grosses mèches, dévoilant peu à peu un front clair, des traits encore incertains, mais qui cherchaient à s'affirmer. Le garçon se tenait droit, comme pour accompagner la métamorphose. Quand André eut terminé, le miroir renvoya l'image d'un visage presque neuf. Le garçon eut un sourire timide, mais c'était un sourire qui disait tout. « Merci, » dit-il simplement, et sa voix, pour la première fois, ne tremblait pas. Le soir tombait doucement. Les lumières du salon prenaient le relais du jour. André sentit la fatigue s'installer dans ses jambes, mais aussi cette fatigue douce, celle qui vient quand on sait que la journée a eu un sens. Les cheveux balayés formaient sur le sol une carte invisible de tous ses départs, comme autant de sentiers qui s'entrecroisent. Il pensa à Juliette, à l'homme en costume sobre, à la femme au manteau sombre, au garçon timide. Chacun d'eux avait laissé derrière lui quelque chose d'ancien, et chacun avait pris avec lui une petite force nouvelle. Et André, dans ce silence de fin de journée, se demanda si finalement, lui aussi, chaque lundi, ne recommençait pas quelque chose. Car à force de voir renaître les autres, peut-être renaissait-il un peu lui-même. La clochette tinta une dernière fois, alors qu'il s'apprêtait à fermer. Une petite fille entra, accompagnée de son père. Elle n'avait pas plus de 10 ans. Ses yeux vifs contrastaient avec l'air fatigué de l'homme. Elle courut vers la chaise et s'y installa comme une reine sur son trône. « Moi aussi je commence quelque chose !» annonça-t-elle d'une voix claire. « Je commence l'école nouvelle demain et je veux une coupe pour qu'on dise « Elle a l'air courageuse !» André éclata de rire doucement. Le père sourit, un peu gêné. Elle insistait tellement. « Vous avez bien fait de venir !» répondit André. Il coiffa la petite avec délicatesse, taillant juste ce qu'il fallait, ajoutant un ruban trouvé dans un tiroir. Quand elle se vit dans le miroir, elle bomba le torse, radieuse. « Je suis prête !» dit-elle. Son père la regarda avec émotion, comme s'il découvrait dans ce reflet la force qu'il n'avait pas su lui donner par les mots. André sentit sa gorge se serrer. Il se souvint de sa propre fille, il y a longtemps, qui avait dit presque la même phrase avant son premier jour d'école. Le souvenir l'effleura avec tendresse. La petite descendit de la chaise, embrassa son père, et avant de sortir, elle se retourna. « Merci, monsieur le coiffeur des nouveaux départs !» André resta figé un instant. Le surnom venait de naître, simple et juste. Et il sut que ce soir-là, il ne fermerait pas seulement un salon. Il fermerait une journée qui avait transformé quelque chose en lui. Il balaya, lentement, rangea les ciseaux, éteignit les lumières. La rue était redevenue calme. Dans la vitrine, le reflet d'André apparaissait. Un homme simple, un coiffeur, mais derrière ce reflet se devinait la silhouette d'un gardien silencieux. Celui qui, chaque lundi, offrait un peu plus que des coupes. Et tandis qu'il verrouillait la porte, il murmura pour lui-même, comme une prière discrète. « Demain, d'autres viendront. Et moi aussi, je recommencerai. » Puis il s'éloigna dans la nuit tiède, laissant derrière lui une petite boutique endormie, prête à accueillir de nouveaux départs. Le lendemain matin, la lumière pâle d'un soleil hésitant s'était posée sur la vitrine du salon. André poussa la porte comme il l'avait toujours fait, avec cette habitude qui n'appartient qu'à ceux qui tiennent un lieu depuis des années. La clé tourna, le battant grinça, et une odeur familière de bois ciré et de café froid l'accueillit. Il resta un instant immobile à l'intérieur, comme s'il saluait silencieusement toutes les voix de la veille restées suspendues entre les murs. Il alluma les lampes, fit chauffer la cafetière, rangea les peignes un à un, gestes répétitifs qui ressemblaient à des prières. Puis il sortit le petit tableau noir et y écrivit encore « Aujourd'hui, les nouveaux départs sont gratuits. » Et comme à chaque fois, son cœur se serra un peu. Ce simple geste, répété semaine après semaine, n'avait rien perdu de sa force. C'était comme ouvrir une fenêtre invisible. Il invitait la vie à venir se déposer ici. La rue était encore calme. On entendait au loin un marchand ambulant installer son étal, et quelques pas pressés résonnaient sur les pavés mouillés. Puis, vers 9 heures, la clochette tinta. La première visite de la journée. Une femme entra, le visage marqué de cernes, ses cheveux attachés à la hâte. Dans ses bras, un nourrisson dormait, minuscule, emmitouflé dans une couverture bleu pâle. Elle demanda timidement. « Vous acceptez, même avec un bébé ?» André hocha la tête. « Bien sûr. Installez-vous, je trouverai un moyen. » Elle s'assit, déposant le petit sur ses genoux, qui continuait de dormir, bercé par la respiration régulière de sa mère. Ses yeux brillants disaient assez qu'elle manquait de sommeil depuis des semaines. « Vous commencez quelque chose ?» demanda André. Elle esquissa un sourire fatigué. « Oui, je commence ma vie de mère. Et je voudrais avoir l'air de quelqu'un qui tient le coup, même si je ne sais pas vraiment si c'est le cas. » André sentit une douceur particulière l'envahir. Avec des gestes délicats, il coupa les pointes abîmées, lissa les mèches rebelles, rendit à ses cheveux une forme qui disait « Je suis encore là ». Tout en travaillant, il jetait parfois un coup d'œil au bébé, qui remuait à peine, apaisé par le rythme régulier des ciseaux. Quand ce fut fini, elle se contempla dans le miroir. Ses yeux fatigués étaient toujours là, mais son visage avait retrouvé une force douce, une sorte de dignité tranquille. Elle serra son enfant contre elle et murmura « Merci. Maintenant, je crois que je peux continuer. » André la regarda partir, le cœur serré. Il se dit qu'il n'y avait pas de commencement plus grand que celui d'apprendre à veiller sur une autre vie. Peu après, ce fut un vieil homme qui entra. Il portait un chapeau usé et une veste élimée. Ses pas étaient lents, mais son sourire était franc. « Bonjour, » dit-il avec une voix légèrement tremblante. « Je ne suis pas venu ici depuis... oh, des années peut-être. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps. » André l'aida à s'asseoir. « Vous commencez quelque chose ?» Le vieil homme hocha la tête, et ses yeux se perdirent un instant dans le vide. « Je commence ma vie seule. Ma femme est partie il y a 3 mois, 57 ans de mariage. Vous imaginez ? J'ai cru que je n'arriverais plus jamais à franchir la porte de la maison, mais hier soir, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester assis à attendre la fin. Alors me voilà. » André sentit ses mains trembler légèrement autour des ciseaux. Il prit une grande inspiration et se mit au travail, chaque geste empreint de respect. Le vieil homme parlait par bribes. Des souvenirs de jeunesse, des dimanches passés au marché, des promenades au bord de la rivière. Sa voix vibrait comme une corde fragile, mais derrière la tristesse se glissait une forme de gratitude. Quand la coupe fut terminée, il leva le menton devant le miroir. Son reflet montrait toujours un vieil homme, mais un homme droit, digne, décidé à continuer d'avancer, même seul. « Voilà, » dit-il en souriant doucement. « Elle aurait aimé que je sois présentable. Merci, mon garçon. » André l'aida à remettre son chapeau, et en le regardant franchir la porte, il sut qu'il venait d'être témoin d'un courage immense, celui de continuer malgré le vide, celui de... La journée avançait, et chaque client semblait porter avec lui un fragment d'humanité. Un étudiant entra, nerveux, racontant qu'il s'apprêtait à déclarer son amour à une amie de longue date. Il voulait ne plus avoir l'air du gamin de toujours. André l'écouta, amusé et touché à la fois, et tailla une coupe simple, mais nette, qui lui donnait cette assurance qu'il cherchait. Quand il sortit, ses épaules s'étaient redressées, comme si le monde l'attendait enfin. Puis vint un homme, plus âgé, silencieux, qui resta longtemps sans dire un mot. Il finit par confier qu'il sortait de prison après 10 ans. Son nouveau départ, c'était de trouver du travail, de reconstruire une dignité perdue. André ne posa pas de questions. Il se contenta d'écouter les silences, de couper avec patience, et de poser une main ferme mais bienveillante sur son épaule à la fin. « Vous avez l'air d'un homme qui mérite une deuxième chance, » dit-il. L'homme eut les yeux humides, mais il ne répondit pas. Il se leva, serra la main d'André et sortit. Le soir approchait quand la dernière visite se produisit. Une jeune fille entra, le visage éclairé d'une timidité lumineuse. Elle tenait dans sa main un petit carnet froissé. « Je voulais savoir, est-ce vrai que le lundi, les nouveaux départs sont gratuits ?» André sourit. « Oui, c'est vrai. Vous commencez quelque chose ?» Elle hocha la tête, puis ouvrit son carnet. Sur la première page, en lettres hésitantes, on pouvait lire « Journal d'une nouvelle vie ». « Je vais quitter l'école. Ce n'est pas pour moi. Je veux apprendre autrement, à ma manière. Tout le monde me dit que c'est une erreur. Mais je crois que c'est ce qu'il me faut. Alors j'ai écrit que mon premier geste serait de changer de coupe. » André fut ému par cette détermination fragile. Il la coiffa avec soin, lui laissant des mèches libres qui encadraient son visage comme pour souligner sa liberté nouvelle. Quand elle se vit dans le miroir, elle eut un sourire timide, mais ferme. « Oh voilà, » dit-elle, « c'est moi maintenant. » Elle referma son carnet et sortit, et André eut l'impression d'avoir vu naître une promesse. Quand la nuit tomba, il rangea une fois de plus les ciseaux et balaya les cheveux. Chaque mèche au sol semblait raconter une histoire, un départ, une renaissance. Et dans le silence du salon vidé, André se dit que ses vies croisées étaient comme une immense fresque dont il n'était que le gardien. Il ferma la lumière, tira doucement la porte derrière lui et en marchant dans la rue calme, il leva les yeux vers les fenêtres éclairées des immeubles. Derrière chacune, il savait qu'une histoire continuait, qu'un courage s'exerçait, qu'un nouveau départ prenait racine. Et il sentit son cœur se remplir d'une certitude simple, presque enfantine. Même dans les existences les plus ordinaires, chaque geste peut être un commencement. Le lundi suivant arriva avec un ciel clair, presque printanier malgré la saison encore fraîche. André ouvrit son salon comme on entr'ouvre une maison pour laisser entrer le jour. Il avait préparé la veille ses ciseaux, huilé les lames, aligné les peignes comme des instruments prêts pour un concert discret. La vitrine brillait un peu plus que d'ordinaire et l'air semblait chargé d'une promesse silencieuse. Comme toujours, il écrivit sur le tableau « Aujourd'hui, les nouveaux départs sont gratuits. » Cette phrase répétée encore et encore avait fini par se répandre dans les ruelles comme un secret que chacun connaissait. Les gens savaient qu'ici, derrière la vitre, on ne venait pas seulement pour une coupe. On venait déposer un fardeau, repartir plus léger. La première à franchir la porte ce matin-là fut une jeune femme en fauteuil roulant. Ses cheveux longs retombaient en cascade autour de son visage et ses mains fines les repoussaient nerveusement. Elle se présenta d'une voix claire. « Je m'appelle Claire, on m'a parlé de vous. » André lui sourit et avança la chaise adaptée qu'il gardait toujours au cas où. « Bienvenue, Claire. Vous commencez quelque chose ?» Elle hocha la tête, ses yeux brillants. « Oui. Je commence à accepter mon corps tel qu'il est, même assis. J'ai longtemps refusé de sortir seul. Aujourd'hui, je me suis promis que ce serait différent. » Un silence doux s'installa, rempli du bruit régulier des ciseaux. Chaque mèche tombait et Claire parlait par fragments. Elle raconta l'accident, la rééducation, les regards pesants des autres. Mais peu à peu, à mesure que les cheveux s'allégeaient, ses mots prenaient une couleur plus vive. Les promenades en bord de mer qu'elle voulait refaire, les études qu'elle avait mises en pause et qu'elle rêvait de reprendre. Quand André eut terminé, elle se regarda dans le miroir. Ses traits étaient les mêmes, mais son sourire, lui, était nouveau. Un sourire qui ne demandait pas la pitié, mais qui offrait une force tranquille. « Je crois que ça y est, » dit-elle. « J'ai l'air d'une femme qui avance. » Et en sortant du salon, elle roula son fauteuil avec une assurance qui fit battre le cœur d'André un peu plus fort. À midi, ce fut un jeune couple qui entra. Ils tenaient leurs mains serrées l'une dans l'autre, comme pour ne pas se perdre. Ils expliquèrent, presque en même temps, qu'ils attendaient un enfant. Leurs voix s'entremêlaient et leurs regards trahissaient la peur aussi bien que la joie. « Nous commençons une famille, » dit la jeune femme. André les fit s'asseoir à tour de rôle. Pour lui, ce fut une coupe rapide, propre, un peu plus adulte, pour elle, une coiffure simple, mais qui soulignait la lumière qui brillait déjà dans ses yeux. Pendant qu'ils coupaient, ils parlaient de prénoms, de projets, de doutes. Leurs phrases se chevauchaient, comme deux ruisseaux qui se rejoignent. Quand ils quittèrent le salon, André eut l'impression d'avoir coiffé non pas deux personnes, mais un avenir entier. Plus tard dans l'après-midi, un homme entra seul. Grand, les traits tirés, les mains encore tachées de peinture. Il posa son sac au sol et dit simplement « Je commence un deuil ». Ces trois mots suffirent. André comprit qu'il n'avait pas besoin de plus. L'homme expliqua d'une voix cassée qu'il avait perdu son frère 2 semaines plus tôt dans un accident brutal. Ils travaillaient ensemble sur des chantiers, partageaient leurs repas, leurs rires. Et maintenant, ils restaient seuls devant les murs inachevés et les souvenirs. « Je ne sais pas comment continuer, » dit-il, « mais je veux au moins avoir l'air debout quand je le ferai. » André coupa doucement, sans un mot inutile. Les cheveux tombaient comme des pétales de silence. Quand la coupe fut terminée, l'homme se regarda, et pour la première fois de la séance, il leva le menton. Ses yeux restaient humides, mais dans ce reflet, il voyait un survivant.
« Merci, » souffla-t-il. « C'est peut-être rien, mais ça change quelque chose. »
Il serra la main d'André avec force avant de sortir. La lumière baissait déjà, filtrant en or à travers la vitrine. André prit un instant pour respirer. Chaque visite laissait une empreinte, et il les portait toutes dans sa mémoire comme des pierres précieuses. Mais la journée n'était pas encore terminée. Une adolescente entra, casque autour du cou, les yeux baissés. Elle demanda d'une voix, à peine audible, « Vous pouvez couper court, très court. » André l'invita à s'asseoir et posa la question rituelle.
« Tu commences quelque chose ?»
Elle hésita puis répondit. « Oui, je commence à ne plus me cacher. Je ne suis pas la fille que mes parents voulaient. Et je veux que ça se voie, enfin. » Sa voix tremblait, mais ses yeux contenaient une détermination farouche. André sentit un frisson courir le long de son dos. Il se mit au travail avec la précision d'un orfèvre, transformant peu à peu la longue chevelure en une coupe courte, affirmée, libre. Quand ce fut terminé, l'adolescente resta longtemps à se regarder, puis elle se leva, le dos droit, et dit
C'est moi. Enfin. Elle sortit sans se retourner, et André, resté seul, sentit ses yeux s'embuer. Il pensa à toutes ces vies qui cherchaient un espace pour exister, et il se dit que si son salon pouvait être cet espace, alors il n'y avait pas de métier plus grand que le sien. La nuit tomba sur la petite rue. Le salon, vidé de ses voix et de ses rires, n'était plus qu'un espace calme, parfumé, de café froid et de cheveux coupés. André rangea ses outils, balaya le sol avec lenteur. Chaque mèche ramassée lui semblait être un secret confié, un fragment de destin. Avant d'éteindre les lumières, il s'arrêta un instant devant le miroir. Il s'y vit lui-même, fatigué mais apaisé. Et il pensa « Moi aussi, chaque lundi, je commence quelque chose. » Puis, il souffla sur le tableau noir, effaça la phrase du jour et sortit dans la nuit douce, le cœur rempli de cette certitude fragile. Tant qu'il y aurait des êtres humains, il y aurait toujours des nouveaux départs à accueillir. Le lundi suivant se leva dans une lumière d'hiver pâle, presque fragile. Le givre dessinait des arabesques sur la vitrine du salon et André dut frotter longuement avec la manche de son manteau pour dégager un cercle de clarté. Il sourit en voyant son propre reflet, embué et imparfait, comme une métaphore de ce qu'il vivait chaque semaine. Rendre clair ce qui semblait flou, faire apparaître un visage derrière la buée de la fatigue, du doute ou du chagrin. Il alluma les lampes une à une, fit résonner le clic familier du vieux percolateur, puis écrivit sur le tableau les mots attendus. Aujourd'hui, les nouveaux départs sont gratuits. Le salon semblait retenir son souffle, comme s'il savait déjà que cette journée porterait en elle des fragments de vie lourds et tendres à la fois. Le premier à pousser la porte fut un jeune homme vêtu d'un uniforme de service. Un sac de sport pendait à son épaule. Il entra avec un pas décidé, mais son regard trahissait une nervosité profonde. « Bonjour, dit-il, je pars demain. » André inclina la tête. « Vous commencez quelque chose ?» Le jeune homme hocha vigoureusement. « L'armée. J'ai signé. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision, mais c'est la seule qui me donne l'impression de... tenir debout. » Il s'assit, et André sentit le poids de ses mots se déposer entre eux. La coupe fut simple, réglementaire presque, mais chaque geste avait la solennité d'un rituel. Le jeune homme se regarda ensuite dans le miroir avec un sérieux presque douloureux. « Merci. Quand je reviendrai, si je reviens, j'aimerais que ce soit encore vous. » André posa une main ferme sur son épaule. « Les portes seront toujours ouvertes. » Et le jeune homme sortit, laissant derrière lui un silence qui sembla vibrer longtemps. Un peu plus tard, ce fut une femme d'âge mûr qui entra, tirant derrière elle une valise à roulettes. Ses yeux étaient gonflés de larmes contenues, mais son maintien était droit, presque fier. « Je commence une fuite, » dit-elle simplement, en s'asseyant. André ne posa pas de questions. Elle expliqua à mi-voix qu'elle quittait un mari violent, qu'elle avait attendu trop longtemps, qu'il était temps de sauver ce qui pouvait l'être. « Je veux qu'il ne me reconnaisse pas si jamais il me cherche. » André sentit ses mains trembler légèrement. Il coupa ses cheveux longs, les transforma en une coupe courte et vive, presque audacieuse. Dans le miroir, le visage qui apparut était celui d'une femme décidée et non plus brisée. Elle sourit, faiblement d'abord, puis plus largement. « C'est moi maintenant, merci. » En sortant, elle traînait sa valise avec une assurance nouvelle. André sut qu'il venait d'assister à l'un de ces gestes invisibles qui sauvent des vies. À la mi-journée, un adolescent entra avec sa mère. Le garçon gardait les yeux rivés au sol et la femme parla à sa place. « Il commence une chimiothérapie demain. Il voulait venir ici avant. » Un silence lourd s'installa. André s'agenouilla presque pour se mettre à hauteur du garçon. « Alors, tu veux qu'on fasse comment ?» Le garçon haussa les épaules. « Rassez tout. Comme ça, quand ça tombera, ce sera déjà fait. » André prit une grande inspiration et commença, le cœur serré. Chaque passage de la tondeuse était un coup de tonnerre dans le silence. Mais à mesure que les cheveux tombaient, le garçon redressait légèrement la tête, comme s'il reprenait le contrôle de quelque chose. Quand ce fut terminé, il se regarda dans le miroir. Ses traits semblaient plus fragiles, mais ses yeux brillaient d'un éclat inattendu. « Voilà, dit-il, je ressemble à un guerrier, maintenant. » Sa mère avait les larmes aux yeux, mais elle souriait en lui caressant la nuque. André détourna le regard, feignant de ranger ses ciseaux, pour cacher l'émotion qui lui montait. Dans l'après-midi, une silhouette qu'il connaissait bien franchit la porte. C'était Lucien, un ancien professeur du quartier, maintenant retraité. Toujours souriant,
toujours prompte à discuter de littérature ou de musique. Mais ce jour-là, son sourire semblait forcé. « André, dit-il, je commence un oubli. » André fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Lucien s'assit et posa les mains à plat sur ses genoux. « Les médecins disent que ma mémoire s'efface. » « Petit à petit. » « Alors avant d'oublier qui je suis, j'aimerais garder une image de moi qui me ressemble encore. » Le cœur d'André se serra. Il coupa doucement, en silence, essayant de retenir chaque détail du visage de Lucien, comme pour compenser ce que l'autre perdait. À la fin, Lucien sourit dans le miroir. « Voilà, dit-il, j'espère que c'est ce visage que je garderai en dernier. » André dut cligner des yeux plusieurs fois avant de répondre. « Et c'est un beau visage, Lucien. Il restera, d'une manière ou d'une autre. » Le jour déclinait, la lumière du soir glissait en oblique sur les miroirs, transformant le salon en un espace doré, presque sacré. André rangeait ses outils quand une dernière visite eut lieu. Une femme âgée entra, courbée mais lumineuse, avec un bouquet de fleurs séchées dans les mains. « Je commence un adieu, » dit-elle en s'asseyant. Elle expliqua qu'elle se rendrait demain au cimetière pour la première fois depuis la mort de son fils. Jusqu'ici, elle n'avait pas eu la force. « Je veux que, quand j'irai, il me voie belle depuis là-haut. » André coupa avec une tendresse infinie. Chaque mèche tombée semblait se transformer en pétale. Quand il eut terminé, elle se regarda, puis plaça une fleur séchée dans ses cheveux. « Voilà. Maintenant, je peux aller lui dire au revoir. » Elle se leva, lui caressa la main avec une douceur maternelle, puis sortit dans la nuit qui tombait. Quand la porte se referma, André resta seul, immobile, le cœur saturé d'émotions. Il regarda le sol couvert de cheveux. Chaque tas était comme une petite tombe, mais aussi une semence de renouveau. Il balaya lentement, rangea ses ciseaux, et avant d'éteindre les lumières, il se contempla dans le miroir. Et il pensa, « Moi aussi, je commence quelque chose chaque fois que je les accompagne. Je commence à croire, malgré tout, en la force tranquille de l'humanité. » Puis il ferma la porte, laissant le salon dans le silence, prêt à accueillir, encore, lundi prochain, d'autres départs, d'autres renaissances. Le lundi s'ouvrit 7 fois sous un ciel gris, bas, qui semblait peser sur les toits. André avait ressenti la lourdeur de l'air dès son réveil, comme si la ville entière attendait un souffle nouveau. Il traversa la rue encore déserte, poussa la porte de son salon, et la clochette tinta d'un son clair qui brisa un instant le silence. Les gestes étaient les mêmes. Allumer les lampes, faire couler le café, aligner les ciseaux. Mais ce matin-là, il prit un instant de plus pour passer la main sur le bois du comptoir, comme pour s'ancrer. Puis il écrivit sur le tableau noir la phrase rituelle. « Aujourd'hui, les nouveaux départs sont gratuits. » Il laissa la craie glisser lentement, savourant la force discrète de ses mots. La première visite fut inattendue. Un homme entra, vêtu d'un costume sombre, parfaitement ajusté, mais ses yeux rouges trahissaient une nuit sans sommeil. Il s'assit sans attendre, et dit d'une voix rauque « J'enterre mon père cet après-midi, je commence une vie sans lui. » Le silence tomba comme une couverture lourde. André posa doucement la cape noire et sans un mot se mit à couper. L'homme ne parlait presque pas. De temps en temps, il fermait les yeux, comme pour retenir les larmes. À la fin, il se regarda longuement dans le miroir. Sa mâchoire s'était raffermie, son regard avait retrouvé une dignité.
« Merci, souffla-t-il, j'ai l'air d'un fils qui peut dire adieu. »
André lui serra la main, fort, et le regarda partir avec ce pas hésitant de ceux qui portent le poids du deuil. Peu après, ce fut une jeune femme qui entra, vêtue d'un tablier taché de peinture. Ses doigts portaient encore les traces de couleurs vives. Elle sourit timidement. « Je viens d'ouvrir mon premier atelier, » dit-elle. « J'ai attendu des années, et je commence enfin à vivre de ma passion. Mais j'ai peur de ne pas être prise au sérieux. » André lui rendit son sourire, et commença à travailler. Chaque coup de ciseau était léger, rythmé comme un pinceau sur une toile. Elle parla de ses toiles, de ses rêves, de ses doutes aussi. Son enthousiasme vibrait, mais sous-jacent, il y avait cette peur de tomber, de ne pas réussir. Quand il eut terminé, ses cheveux encadraient son visage avec une énergie nouvelle, un éclat audacieux. Elle se regarda et éclata de rire. « Voilà, dit-elle, on dirait que je suis une artiste qui ose. » Et en la voyant repartir, André se dit que parfois, la beauté réside dans ce simple geste. Se donner la permission d'essayer. Vers midi, une femme âgée entra, tirant derrière elle un petit chariot de course. Elle marcha lentement jusqu'à la chaise, et quand André lui demanda si elle commençait quelque chose, elle répondit avec un sourire malicieux.
« Oui, je commence une nouvelle amitié. »
Elle expliqua qu'elle avait accepté, la veille, de rejoindre un club de lecture du quartier. Elle, qui vivait seule depuis si longtemps, avait décidé qu'il n'était jamais trop tard pour ouvrir la porte aux autres.
« Je veux avoir l'air... » « Accueillante, » dit-elle en riant doucement.
André coupa ses cheveux courts, avec soin, ajoutant de la légèreté. Quand elle se vit dans le miroir, elle tapota ses joues roses et déclara « Je suis prête, qu'ils sachent que je ne suis pas seulement une vieille dame, mais quelqu'un qui a encore des histoires à partager. » Elle sortit en sifflotant, et André sentit une chaleur douce l'envahir. « La solitude, » pensa-t-il, « peut aussi être s'apprivoiser par un simple geste d'ouverture. » L'après-midi apporta un visiteur inattendu, un homme en blouse blanche, médecin, à l'hôpital voisin. Ses épaules s'affaissaient et son visage portait les marques d'une fatigue profonde.
« Je commence une pause, » dit-il.
Il expliqua qu'il passait ses journées à sauver des vies, à courir d'une chambre à l'autre, mais qu'il avait oublié depuis longtemps de prendre soin de lui.
« Je veux, au moins pour un instant, me rappeler que j'existe en dehors de l'hôpital. »
André coupa avec lenteur, en silence, laissant l'homme fermer les yeux, presque s'assoupir. Quand la coupe fut terminée, le médecin sourit faiblement.
« Merci, j'ai l'impression de respirer un peu mieux. »
Il sortit, et André se dit que même les héros ont besoin de lieux où ils peuvent déposer leurs armes invisibles. La fin de journée approchait, et le salon baignait dans une lumière dorée. La porte s'ouvrit une dernière fois. Une adolescente entra, tenant une guitare dans son dos. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et de peur.
« Je joue ce soir dans un café pour la première fois. C'est mon début. Je veux avoir l'air de quelqu'un qu'on écoute. »
André lui sourit et coupa ses cheveux en dégageant son visage, révélant ses traits jeunes mais décidés. Elle parla de ses chansons, de ses rêves de scène, de sa peur de trembler devant le public. Quand elle se vit dans le miroir, elle inspira profondément.
« Voilà. Maintenant, j'ai l'air d'une chanteuse. »
Elle partit presque en courant, et André resta un instant immobile, ému par cette énergie neuve qu'il apportait. Le soir tomba, et André balaya le sol couvert de mèches. Chacune lui rappelait un morceau d'humanité confié. Le fils endeuillé, l'artiste hésitante, la vieille dame en quête d'amitié, le médecin fatigué, la musicienne débutante. Il éteignit les lumières et resta un moment devant le miroir. Son propre reflet le regardait, marqué par les années, mais illuminé par la certitude qu'il avait été, ce jour encore, le témoin de renaissance discrète. Et il pensa, en fermant la porte, « Chaque vie est une coupe invisible. Il suffit parfois d'un geste, d'une écoute, pour qu'un être humain se sente prêt à recommencer. » Il marcha dans la nuit calme, le cœur rempli de cette conviction douce. Tant qu'il resterait des ciseaux et des mains pour accueillir, il y aurait toujours des nouveaux départs.